Ils gagnèrent, sans attirer l'attention, une auberge retirée de la ville et s'installèrent gaiement autour d'une table que l'hôte couvrit bientôt d'une demi-douzaine de bouteilles aux cols allongés, pleines de ce bon vin du Rhin qui délie la langue et ouvre le cœur. Les bouteilles se succédèrent rapidement et la conversation devint si expansive et si confiante que Munch éprouva le désir de la prolonger indéfiniment. En conséquence, il proposa à Robin Hood d'entrer dans sa bande. Les camarades de Munch, ensorcelés par les joyeuses descriptions d'une existence indépendante sous les grands arbres de la forêt de Sherwood, suivirent l'exemple donné par leur chef et s'engagèrent du cœur et des lèvres à suivre Robin Hood. Celui-ci accepta l'affectueuse proposition qui lui était faite et Munch, qui voulait partir sur le champ, demanda à son nouveau chef la permission d'aller faire ses adieux à toute sa famille. Petit-Jean devait attendre son retour, conduire les trois hommes à la retraite de la forêt, les y installer et reprendre le chemin de Barsdale où ils trouveraient William et Robin. Ces divers arrangements arrêtés, la conversation prit un autre cours. Quelques minutes avant l'heure de leur départ de l'auberge, deux hommes entrèrent dans la salle où ils étaient installés. Le premier de ces hommes jeta d'abord un coup d'œil rapide sur Robin Hood, regarda Petit-Jean et arrêta son attention sur Will Écarlate. Cette attention fut si vive et si tenace que le jeune homme s'en aperçut. Il allait interroger le nouveau venu lorsque celui-ci, s'apercevant qu'il avait soulevé un sentiment d'inquiétude dans l'esprit du jeune homme, détourna les yeux, avala d'un trait le verre de vin qu'il s'était fait servir et sortit de la salle avec son compagnon. Trop absorbé par la joie que lui causait l'espérance de voir Maud avant la nuit, Will négligea de communiquer à ses cousins ce qui venait de se passer et il monta à cheval avec Robin Hood sans songer à lui rien dire. Chemin faisant, les deux amis se tracèrent un plan de conduite pour l'entrée de William au château. Robin voulait y paraître et préparer la famille à la venue de Will, mais l'impatient garçon ne voulait point accepter cet arrangement. « Mon cher Robin, disait-il, ne me laissez pas seul. Mon émotion est si grande qu'il me serait impossible de rester silencieuse et tranquille à quelques pas de la maison de mon père. Je suis tellement changé et mon visage porte des traces si visibles d'une cruelle existence qu'il n'y a point à craindre que ma mère me reconnaisse au premier coup d'œil. Présentez-moi comme un étranger, comme un ami de Will. J'aurai ainsi le bonheur de voir mes chers parents plus tôt et de me faire reconnaître lorsqu'ils auront été préparés à ma venue. » Robin céda au désir de William et les deux jeunes gens se présentèrent ensemble au château de Barsdale. Toute la famille était réunie dans la salle. Robin fut reçu à bras ouverts et le baronnet adressa à celui qu'il prenait pour un étranger les offres cordiales d'une affectueuse hospitalité. Winifred et Barbara s'assirent auprès de Robin et l'accablèrent de questions. Car d'habitude, il était pour les jeunes filles l'écho des nouvelles du dehors. L'absence de Maud et de Marianne mit Robin à son aise. Aussi, après avoir répondu aux demandes de ses cousines, il se leva et dit en se tournant vers Sir Guy « Mon oncle, j'ai de bonnes nouvelles à vous donner, des nouvelles qui vous rendront fort joyeux. Votre visite est déjà une grande satisfaction pour mon vieux cœur, Robin Hood, répondit le vieillard.
Robin Hood est un messager du ciel, cria la jolie Barbara en secouant d'un air mutin les grappes blondes de ses beaux cheveux.
À ma prochaine visite, Barbie, répondit gaiement Robin, je serai un messager de l'amour. Je vous apporterai un mari.
Je le recevrai avec beaucoup de plaisir, Robin, répartit la jeune fille en riant.
Vous ferez très bien, ma cousine, car il sera digne de ce gracieux accueil. Je ne veux point vous faire son portrait et je me contenterai de vous dire que, aussitôt que vos beaux yeux se seront reposés sur lui, vous direz à Winifred « Ma sœur, voilà celui qui convient à Barbara Gamwell. »
« Êtes-vous bien sûr de cela, Robin ?»«
Parfaitement sûr, charmante espiègle. »
« Ah, pour en décider, il faut être en pleine connaissance de cause, Robin. Sans le laisser voir, je suis très difficile, moi. » Et pour réussir à me plaire, il faut qu'un jeune homme soit très gentil.
Qu'appelez-vous être très gentil?
Vous ressemblez, mon cousin.
Flatteuse.
Je dis ce que je pense. Tant pis si ma réponse vous semble une flatterie. Et je désire non seulement que mon mari soit beau comme vous l'êtes, mais encore qu'il ait votre esprit et votre cœur. Je vous plairai donc, Barbara ?
Certainement, vous êtes tout à fait à mon goût.
Je suis à la fois très heureux et très peiné d'avoir ce bonheur, ma cousine. Mais hélas, si vous nourrissez secrètement l'espoir de ma conquête, permettez-moi de déplorer votre folie. Je suis engagée, Barbara, engagée avec deux personnes.
Je connais ces deux personnes, Robin.
Vraiment, ma cousine?
Oui, et si je voulais dire leur nom?
Ah, je vous en prie, ne trahissez pas mon secret, Miss Barbara.
Soyez sans crainte, je désire ménager votre modestie. Mais pour en revenir à moi, cher Robin, je consens, s'il vous est agréable de m'octroyer cette faveur, d'être la troisième de vos fiancées, et même la quatrième, car je présume qu'il existe pour le moins trois jeunes filles qui attendent le bonheur de porter votre illustre nom.
Petite moqueuse, dit le jeune homme en riant, vous ne méritez pas l'amitié que je vous porte. Néanmoins, je tiendrai ma promesse, et sous peu de jours, je vous amènerai un charmant cavalier.
Si votre protégé n'est pas jeune, spirituel et beau, je n'en veux pas, Robin. Souvenez-vous bien de cela.
Il est tout ce que vous désirez qu'il soit.
Fort bien. Maintenant, dites la nouvelle que vous étiez sur le point d'annoncer à mon père avant de songer à m'offrir un mari.
Miss Barbara, j'allais apprendre à mon oncle, à ma tante, à vous également, chère Winifred, que j'avais entendu parler d'une personne bien chère à nos cœurs.
De mon frère Will ? Dit Barbara.
Oui, ma cousine.
Oh, quel bonheur ! Eh bien !
Eh bien, ce jeune homme qui vous regarde d'un air tout embarrassé, tant il est heureux de se trouver en présence d'une aussi charmante fille, a vu William il y a quelques jours.
Mon fils est-il en bonne santé ? Demanda Sir Guy d'une voix tremblante.
Est-il heureux ? Interrogea Lady Gamwell en joignant les mains.
Où est-il ? Ajouta Winifred.
Quelle est la raison qui le retient loin de nous ? Dit Barbara en attachant ses yeux pleins de larmes sur le visage du compagnon de Robin Hood. Le pauvre William, la gorge en feu, le cœur gonflé, était incapable de prononcer une seule parole. Une minute de silence succéda aux pressantes questions qui venaient d'être faites. Barbara continuait pensivement de regarder le jeune homme. Tout à coup, elle jeta un cri, s'élança vers l'étranger et, l'entourant de ses bras, dit au milieu de ses sanglots
« C'est Will ! C'est Will ! Je le reconnais ! Cher Will, combien je suis heureuse de te voir !»
Et, la tête appuyée sur l'épaule de son frère, la jeune fille se prit convulsivement à pleurer. Lady Gamwell, ses fils, Winifred et Barbara entourèrent le jeune homme et Sir Guy, tout en essayant de paraître calme, tomba sur un fauteuil et se laissa aller à pleurer comme un enfant. Les jeunes frères de Will semblaient ivres de bonheur. Après avoir jeté un hourra formidable, ils enlevèrent William sur leur robuste bras et l'embrassèrent en l'étouffant un peu. Robin profita de l'inattention générale pour sortir du salon et se rendre à l'appartement de Maud. La santé de Miss Lindsay, qui était fort délicate, demandait de grands ménagements et il eût peut-être été dangereux de lui annoncer à l'improviste le retour de William. En traversant une pièce qui avoisinait la chambre de Maud, Robin rencontra Marianne.
« Que se passe-t-il au château, cher Robin ?» demanda la jeune fille, après avoir reçu les tendres compliments de son fiancé.
« Je viens d'entendre des cris qui me semblent bien joyeux. »
« Et qu'ils sont en effet, chère Marianne, car ils célèbrent ton retour ardemment désiré. »«
Quel retour ? » demanda la jeune fille d'une voix tremblante. « Est-ce celui de mon frère ?»«
Hélas non, chère Marianne, » répondit Robin en prenant les mains de la jeune fille. « Ce n'est pas encore Alan que Dieu nous envoie, mais Will. » Vous vous rappelez bien Will Écarlate, le gentil William ?
Certainement, et je suis très heureuse de le savoir revenu en bonne santé.
Où est-il ?
Dans les bras de sa mère. Je suis sortie de la salle au moment où ses frères se disputaient ses caresses. Je vais à la recherche de Maud.
Elle est dans sa chambre. Voulez-vous que je lui fasse dire de descendre ?
Non, je vais monter auprès d'elle, car il faut préparer cette pauvre enfant à recevoir la visite de William. La mission dont je me charge est fort difficile à remplir, ajouta Robin en riant, car je connais beaucoup mieux les labyrinthes de la forêt de Sherwood que les replis mystérieux du cœur des femmes.
Ne faites pas le modeste, messire Robin, répondit Marianne avec gaieté. Vous connaissez mieux que personne comment il faut s'y prendre pour pénétrer dans le cœur d'une femme.
En vérité, Marianne, je crois que mes cousines, Maud et vous, avez fait un pacte pour tâcher de me rendre orgueilleux. Vous me comblez à l'envi de compliments flatteurs.
Sans nul doute, sœur Robin, dit Marianne en faisant au jeune homme un signe de menace. Vous attirez à plaisir les amabilités de Winifred et de Barbara. Ah, vous êtes en coquetterie avec vos cousines. C'est fort bien, je suis enchantée de l'apprendre, et je vais à mon tour essayer sur le cœur du beau Will Écarlate le pouvoir de mes yeux.
J'y consens, chère Marianne, mais je dois vous avertir que vous aurez à combattre une rivale dangereuse. Maud est ardemment aimée. Elle défendra son bonheur, et le pauvre Will rougira fort d'être placé ainsi entre deux charmantes femmes.
Si William ne sait pas mieux rougir que vous, Robin, je n'ai pas à craindre de lui faire éprouver cette embarrassante émotion.
Ah ah, dit Robin en riant, vous prétendez, Miss Marianne, que je ne sais pas rougir?
Du moins, vous ne savez plus, ce qui est bien différent. Une fois, je m'en souviens encore, un pourpre éclatant a nuancé vos joues.
À quelle époque ce mémorable événement a-t-il eu lieu?
Le premier jour de notre rencontre dans la forêt de Sherwood.
Voulez-vous me permettre de vous dire pourquoi j'ai rougi, Marianne?
Je crains de vous répondre affirmativement, Robin, car je vois poindre dans vos yeux une expression de raillerie et vos lèvres ébauchent un méchant sourire.
Vous redoutez ma réponse et cependant vous l'attendez avec impatience, Miss Marianne.
Pas le moins du monde.
Tant pis alors, car je croyais vous être agréable en vous révélant le secret de ma première et de ma dernière rougeur.
Vous m'êtes toujours agréable en me parlant de choses qui vous concernent, Robin, dit Marianne en souriant.
Le jour où j'eus le bonheur de vous conduire à la maison de mon père, j'éprouvais un très vif désir de voir votre visage qui, enveloppé dans les plis d'un large capuchon, ne me laissait voir que la limpide clarté de vos yeux. Je me disais en moi-même, tout en marchant à vos côtés d'un air fort modeste, « Si cette jeune fille a les traits aussi beaux que son regard, je lui ferai la cour. »
« Comment, Robin, à 16 ans, vous songiez à vous faire aimer d'une femme ?»«
Mon Dieu, oui, et au moment où je projetais de vous consacrer ma vie entière, votre adorable visage, dégagé du sombre voile qui le dérobait à mes yeux, apparut dans toute sa radieuse splendeur. » Mon regard était si ardemment suspendu au vôtre qu'une nuance de pourpre envahit vos joues. Une voix intérieure me cria « Cette jeune fille sera ta femme !» Le sang qui avait reflué vers mon cœur monta jusqu'à ma figure et je sentis que j'allais vous aimer. Voilà, chère Marianne, l'histoire de ma première et de ma dernière rougeur. Depuis ce jour-là, continua Robin, après un moment de silence ému, cet espoir, tombé du ciel comme la promesse d'un heureux avenir, s'est fait le consolateur et l'appui de mon existence. J'espère et je crois. Une clameur joyeuse monta du salon jusqu'à la pièce où, les mains enlacées et causant tout bas, les deux jeunes gens continuaient d'échanger les plus tendres paroles.
« Vite, cher Robin, dit Marianne en présentant son beau front aux lèvres du jeune homme. « Montez à l'appartement de Maud. Moi, je vais embrasser Will et lui dire que vous êtes auprès de sa chère fiancée. »
Robin gagna rapidement la chambre de Maud et y trouva la jeune fille.
« J'étais presque certaine d'avoir entendu les cris de joie qui annoncent votre arrivée, cher Robin, » dit-elle en faisant asseoir le jeune homme. « Excusez-moi si je ne suis pas descendue au salon, mais je me sens gênée et presque importune au milieu de la satisfaction générale. »
Pourquoi cela, Maud?
Parce que je suis toujours la seule à qui vous n'avez jamais à apprendre une heureuse nouvelle.
Votre tour viendra, chère Maud.
J'ai perdu le courage d'espérer, Robin, et je me sens d'une tristesse mortelle. Je vous aime de tout mon cœur, je suis heureuse de vous voir, et cependant, je ne vous donne point d'épreuve de cette affection,
et cependant, je ne témoigne pas combien votre présence ici m'est agréable. Quelquefois même, cher Aubin, je cherche à vous fuir. »
« À me fuir ? » s'écria le jeune homme d'un ton surpris.
« Oui, Robin, car en vous écoutant donner à Sir Guy des nouvelles de ses fils, complimenter Winifred de la part de Petit Jean, donner à Barbara un message de ses frères, je me dis, je suis toujours oublié. Il n'y a qu'à la pauvre Maude que Robin n'a jamais rien à remettre. »«
Jamais rien, Maude ? » ?»«
Ah, je ne parle pas des charmants cadeaux que vous apportez. » Vous en faites toujours à votre sœur Maude une très large part, croyant compenser ainsi le manque de nouvelles. Votre excellent cœur essaie de toutes les consolations, cher Aubin. Hélas, je ne puis être consolée.
Vous êtes une méchante petite fille, Miss Maude, dit Aubin à ton railleur.
Comment, mademoiselle, vous vous plaignez de ne jamais recevoir de la part de personne des témoignages d'amitié, des preuves de bons souvenirs? Comment, vilaine ingrate, je ne vous donne pas à chacune de mes visites des nouvelles de Nottingham? Quel est celui qui, au risque de perdre sa tête, va rendre de fréquentes visites à votre frère Hall? Quel est celui qui, au risque bien grand encore d'engager une partie de son cœur, s'expose courageusement au feu meurtrier de deux beaux yeux? Afin de vous être agréable, Maude, je brave le danger du tête-à-tête avec la ravissante Grace. Je subis le charme de son gracieux sourire, je supporte le contact de sa jolie main, j'embrasse même son beau front. Et pour qui, je vous le demande, vais-je exposer ainsi le repos de mon cœur? Pour vous, Maude, rien que pour vous. »
Maude se mit à rire.
« Il faut en vérité que je sois bien peu reconnaissante de mon naturel, dit-elle, car la satisfaction que j'éprouve en vous entendant parler d'Albert et de sa femme ne suffit point au désir de mon cœur. »
« Très bien, mademoiselle. Alors je ne vous dirai pas que j'ai vu Hall la semaine dernière, qu'il m'a chargé de vous embrasser sur les deux joues. Je ne vous dirai pas non plus que Grace vous aime de toute son âme, que sa petite fille Maude, un ange de bonté, souhaite le bonheur à sa jolie marraine. »
« Mille fois merci, cher Aubin, pour votre charmante manière de ne rien dire. Je suis très satisfaite de rester ici dans l'ignorance de ce qui se passe à Nottingham. » « Mais à propos, avez-vous fait part à Marianne de l'attention que vous accordez à la charmante femme d'Albert ?»«
Voilà par exemple une malicieuse question, Miss Maude.
Eh bien, pour vous donner la preuve que ma conscience n'a point de reproches à se faire, je vous dirai que j'ai confié à Marianne une petite partie de mon admiration pour les charmes de la belle Grace. » Cependant, comme j'ai un faible pour ses yeux, je me suis bien gardé d'être trop expansive sur un sujet aussi délicat.
Et quoi ? Vous trompez Marianne ? Vous mériterez que j'aille lui révéler à l'instant même toute l'étendue de votre crime.
Nous irons ensemble tout à l'heure, je vous offrirai mon bras. Mais avant de nous rendre de compagnie auprès de Marianne, je désire causer avec vous.
Qu'avez-vous à me dire, Robin ?
Des choses charmantes et qui, j'en suis certain, vous donneront un vif plaisir.
Alors, vous avez reçu des nouvelles de...
Et la jeune fille, l'œil interrogateur, les joues subitement colorées, regardait Robin avec une expression mêlée de doute, d'espérance et de joie.
De qui, Maude ?
Oh, vous vous moquez de moi ! Dit tristement la pauvre fille.
« Non, chère petite amie, j'ai vraiment à vous apprendre quelque chose de très heureux. »«
Dites-le-moi bien vite, alors !»«
Que pensez-vous d'un mari ?» demanda Robin.
« Un mari ? Voilà une étrange question. »«
Pas du tout, si ce mari était... »«
Will ! Will ! Vous avez entendu parler de Will ? De grâce, Robin, ne jouez pas avec mon cœur !» Tenez, il bat avec tant de violence qu'il me fait souffrir. Je vous écoute. Parlez, Robin. Ce cher Will est-il bien portant ?
Sans doute, puisqu'il songe à vous nommer le plus tôt possible sa chère petite femme.
Vous l'avez vu ? Où est-il ? Quand viendra-t-il ici ?
Je l'ai vu, il viendra bientôt.
Oh, sainte mère de Dieu, je te remercie !
S'écria Maude, les mains jointes et levant vers le ciel ses yeux remplis de larmes.
« Combien je serais heureuse de le voir !» ajouta la jeune fille.
« Mais,
continua Maud, l'œil magiquement attiré vers la porte, sur le seuil de laquelle un jeune homme se tenait debout.
« C'est lui ! C'est lui !»
Maud jeta un cri de suprême joie, s'élança dans les bras de William et perdit connaissance.
« Pauvre chère fille !» murmura le jeune homme d'une voix tremblante. « L'émotion a été trop vive, trop inattendue. Elle s'est évanouie. Robin, soutiens-la un peu. Je me sens aussi faible qu'un enfant. Il m'est impossible de rester debout. »
Robin enleva doucement Maud d'entre les bras de Will et la porta sur un siège. Quant au pauvre William, la tête cachée entre les mains, il versait d'abondantes larmes. Maud revint à elle. Sa première pensée fut pour Will, son premier regard chercha le jeune homme. Celui-ci s'agenouilla tout en pleurs aux pieds de Maud. Il entoura de ses bras la taille de son ami et, d'une voix expressive et tendre, il murmura son nom bien-aimé. « Maud, Maud !»«
William, cher William !»«
J'ai besoin de parler à Marianne, » dit Robin en riant. « Adieu, je vous laisse en tête à tête. N'oubliez pas trop ceux qui vous aiment. » Maud tendit la main au jeune homme et William lui envoya un regard plein de reconnaissance.
« Enfin, me voilà revenue, chère Maud, » dit Will. « Êtes-vous contente de me revoir ?»« Comment pouvez-vous m'adresser une pareille question, William ?»« Oh oui, je suis contente. Mieux que cela, je suis heureuse, très heureuse. »
« Vous ne désirez plus m'éloigner de vous ?»«
L'ai-je jamais désiré ?»«
Non, mais il dépend de vous seul que ma présence ici soit un séjour définitif ou une simple visite. »«
Que voulez-vous dire ?»«
Vous souvient-il de la dernière conversation que nous avons eue ensemble ?»«
Oui, cher William. »
« Je vous quittais le cœur bien gros ce jour-là, chère Maud. J'étais au désespoir. » Robin s'aperçut de ma tristesse et, pressé par ses questions, je lui en avouai la cause. J'appris ainsi le nom de celui que vous aviez aimé.
« Ne parlons pas de mes folies de jeune fille !» interrompit Maud en nouant ses mains autour du cou de William. « Le passé appartient à Dieu. »
« Oui, chère Maud, à Dieu seul et le présent à nous, n'est-ce pas ?»«
Oui, à nous et à Dieu !» « Il serait peut-être nécessaire pour votre tranquillité, cher William, » ajouta la jeune fille, « que vous eussiez de mes relations avec Robin Hood une idée bien claire, bien franche et bien arrêtée. »
« Je sais tout ce que je désire savoir, chère Maud. Robin m'a fait part de ce qui s'était passé entre vous et lui. » Une légère rougeur monta au front de la jeune fille.
« Si votre départ eût été moins prompt, » reprit Maud, en appuyant sur l'épaule du jeune homme son visage empourpré, « vous eussiez appris que, profondément touché de la patiente tendresse de votre amour, je voulais y répondre. Pendant votre absence, je me suis habituée à regarder Robin avec les yeux d'une sœur et aujourd'hui je me demande, Will, si mon cœur a jamais battu pour un autre que pour vous. »
« Alors, il est bien vrai que vous m'aimez un peu, Maud, » dit William, les mains jointes et les yeux humides.
« Un peu, non, mais beaucoup. »«
Oh, Maud, Maud, combien vous me rendez heureux. Vous le voyez, j'avais raison d'espérer, d'attendre, de me montrer patient, de me dire, il viendra un jour où je serai aimé. Nous allons nous marier, n'est-ce pas ?»«
Cher Will !»«
Dites oui, dites mieux encore, » « Dites, je veux épouser mon bon William. »«
Je veux épouser mon bon William, » répéta docilement la jeune fille.
« Donnez-moi votre main, chère Maud. »«
La voici. »
William baisa passionnément la petite main de sa fiancée. « À quand notre mariage, Maud ? » demanda-t-il.
« Je ne sais, mon ami, un de ces jours. »
« Sans doute, mais il faut le préciser. » Si nous disions demain.
Demain, Will, vous n'y pensez pas, c'est impossible.
Impossible? Pourquoi cela?
Parce que c'est trop subit, trop rapide.
Le bonheur n'arrive jamais trop vite, chère Maud, et si nous pouvions nous marier à l'instant même, je serais le plus heureux des hommes. Puisqu'il faut attendre jusqu'à demain, je m'y résigne. C'est convenu, n'est-ce pas? Demain, vous serez ma femme.
Demain? S'écria la jeune fille. « Oui, et pour deux raisons. La première, c'est que nous fêtons l'anniversaire de mon père, qui vient d'entrer dans sa 76e année. La seconde, c'est que ma mère désire célébrer mon retour par de grandes réjouissances. La fête sera bien plus complète si elle est encore égayée par l'accomplissement de nos mutuels désirs.
Votre famille, cher William, n'est point préparée à me recevoir au nombre des siens, et votre père dira peut-être...
Mon père, interrompit Will, mon père dira que vous êtes un ange, qu'il vous aime et que depuis longtemps déjà vous êtes sa fille.
Ah, Maud, vous ne connaissez pas ce bon et tendre vieillard, puisque vous doutez qu'il soit très heureux du bonheur de son fils. Vous possédez un si grand talent de persuasion, mon cher Will, que je me range entièrement à votre avis.
Ainsi vous consentez, Maud.
Il le faut, je présume, cher Will.
Vous n'y êtes pas contrainte, miss.
En vérité, William, vous êtes bien difficile à satisfaire. Sans doute, vous préférez m'entendre vous répondre « Je consens de tout mon cœur
à vous épouser demain », ajouta Will.
« À vous épouser demain », répéta Maud en riant.
« Très bien, je suis content. Venez, chère petite femme, allons annoncer à nos amis notre prochain mariage. » William prit le bras de Maud et le glissa sous le sien et, tout en embrassant la jeune fille, il entraîna vers la salle où toute la famille était encore réunie. Lady Gamwell et son mari donnèrent leur bénédiction à Maud, Winifred et Barbara saluèrent la jeune fille du doux nom de sœur et les frères de Will l'embrassèrent avec enthousiasme. Les préparatifs de la noce occupèrent les dames qui, tout animées d'un même désir, celui de contribuer au bonheur de Will et à la beauté de Maud, se mirent sur le champ à composer pour la jeune fille une charmante toilette. Le lendemain arriva, comme arrivent tous les lendemains, lorsqu'ils sont impatiemment attendus, avec une grande lenteur. Dès le matin, la cour du château avait été garnie d'une fabuleuse quantité de tonneaux d'ailes qui, en guirlandais de feuillage, devaient attendre patiemment que l'on daignât s'apercevoir de leur présence. Un festin splendide se préparait, les fleurs cueillies par brassées jonchaient les salles, les musiciens accordaient leurs instruments et les convives attendus arrivaient en foule. L'heure fixée pour la célébration du mariage de Miss Lindsay avec William Gamwell était près de sonner. Maud, parée avec un goût exquis, attendait dans la salle la venue de William et William ne venait pas. Sir Guy envoya un serviteur à la recherche de son fils. Le serviteur parcourut le parc, visita le château, appela le jeune homme et n'entendit d'autre réponse que l'écho de sa propre voix. Robin Hood et les fils de Sir Guy montèrent à cheval et fouillèrent les environs. Ils n'aperçurent aucune trace du jeune homme, ils ne purent recueillir sur lui aucun renseignement. Les convives, divisés par bandes, allèrent d'un autre côté explorer la campagne. Mais leur recherche fut aussi inutile. À minuit, toute la famille en pleurs se pressait autour de Maud, plongée depuis une heure dans un profond évanouissement. William avait disparu.